Chapitre 10. Les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Cours 2. L'implication des civils dans l'effort de guerre. L'enlisement et le caractère total du conflit rendent nécessaire l'implication des civils. Les soldats de l'avant ne sont pas les seuls mobilisés et l'arrière participe aussi à la guerre. A. Un besoin généralisé de main-d'œuvre. Le départ des hommes au front. Alors qu'il faut produire toujours plus, le nombre de travailleurs est considérablement réduit par la mobilisation. En France, 3 millions d'hommes sont mobilisés, 23% de la population active. Se pose alors la question de leur remplacement. Le recours aux travailleurs étrangers. Les États font d'abord appel à des renforts masculins extérieurs, venus des colonies ou de l'étranger, chinois en France et en Grande-Bretagne. On met aussi à contribution les prisonniers de guerre et parfois les civils des régions occupées, comme en Belgique et dans le nord de la France. La mobilisation des travailleurs nationaux. Dès 1915, une loi française permet de retirer du front les ouvriers qualifiés dont l'industrie a besoin. En 1917, 500 000 d'entre eux ont regagné leur usine. En décembre 1916, l'Allemagne adopte la loi sur le service auxiliaire. Tous les hommes de 17 à 60 ans, inaptes au combat, doivent travailler dans des établissements œuvrant pour l'effort de guerre. Les syndicats font des concessions. En France, la durée de travail quotidienne, fixée normalement à 10 heures, est dépassée et le travail de nuit est généralisé. B. L'implication des femmes et des enfants. La mobilisation des femmes. Cette main-d'œuvre masculine ne suffisant pas, les femmes sont amenées à remplacer les hommes. Dans les campagnes, elles prennent en main les exploitations. Elles remplacent aussi les hommes à l'usine, comme les munitionnettes dans les usines d'armement, mais sont toujours moins bien payées. Elles peuvent aussi conduire des camions ou des ambulances, ou être techniciennes, comme ces 750 mécaniciennes dans des centres d'entraînement de la Royal Air Force au Canada. À toutes ces travailleuses s'ajoutent les bénévoles qui s'enrôlent dans les services de santé. En France, on dénombre 100 000 infirmières ou volontaires de la Croix-Rouge. Certaines femmes jouent aussi le rôle de marraines de guerre et correspondent avec des soldats du front pour leur remonter le moral. La mobilisation des enfants. Au Canada, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre agricole, on recrute des soldats de la terre. Jeunes garçons des villes qui acceptent de travailler dans des exploitations agricoles. Les jeunes filles sont aussi sollicitées. En 1918, 24 000 farmerettes remplacent les hommes pour récolter des fruits dans la vallée du Niagara. C. Les conséquences de la mobilisation des civils. D'importantes mutations sociales. Si les ouvriers mobilisés davantage dans les usines que sur les champs de bataille ont été relativement épargnés par la mort, ils ont travaillé dur et leurs salaires sont restés faibles. Les populations rurales profitent de prix élevés, mais elles sont aussi les plus frappées par le deuil. Enfin, certains, comme les industriels Renault ou Boussac, se sont considérablement enrichis. Compte tenu de l'effort de guerre sans précédent de l'arrière, les gouvernements acceptent certaines réformes. En France, par exemple, une loi instaure en 1919 la journée de 8 heures. Vers une émancipation des femmes ? Les femmes ont toujours travaillé, notamment dans les milieux ouvriers et paysans, mais pendant la guerre, elles ont accédé à des emplois traditionnellement réservés aux hommes. Cependant, la fin de la guerre voit le retour des hommes à l'usine et des femmes au foyer. Pour récompenser leur engagement, certains pays leur accordent le droit de vote : Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, États-Unis. Ce n'est pas le cas en France, où l'émancipation des femmes est freinée par une politique nataliste. Une loi de 1920 durcit la répression de la contraception et l'avortement par peur du déclin démographique.